Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Prague pour ce bulletin d'information. En titre ce lundi 14 mai, protestation sociale, les syndicats appellent à la mobilisation le 22 mai prochain. Le gouvernement entend libérer des prisonniers pour répondre à la crise budgétaire des services pénitentiaires. Élection présidentielle, les députés se sont mis d'accord sur le plafond des financements de campagne. La plateforme Civique Stoppons le gouvernement appelle à la mobilisation. Celle-ci devrait se tenir dans le centre de Prague le 22 mai prochain. Les syndicats et les associations critiquent l'ensemble des mesures d'austérité, les réformes gouvernementales ainsi que l'ensemble des affaires qui ont bouleversé la coalition au pouvoir depuis bientôt 2 ans. Les syndicats qui avaient annoncé depuis plusieurs semaines l'organisation de manifestations de grande ampleur, si rien n'était fait pour répondre à leurs revendications, ont présenté le parcours de la marche anti-gouvernementale que doivent suivre les manifestants. Elle partira de la centrale de la Confédération syndicale de Žižkov et se dirigera via la Magistrala, l'artère principale de la ville, vers le palais du gouvernement. C'est ce que la présidente adjointe de la Confédération syndicale tchèque, Emora Vratka Sokolova, a annoncé ce lundi aux journalistes lors d'une conférence de presse. Les syndicats souhaitent l'arrêt des mesures d'austérité, la démission du gouvernement et la tenue d'élections anticipées. Les membres du gouvernement débattront mercredi 16 mai de la possibilité de libérer avant la fin de l'exécution des peines un certain nombre de détenus ayant commis des crimes les moins graves. C'est ce que le ministre de la Justice, Jerzy Pospíšil, a déclaré ce lundi aux journalistes. Les établissements pénitentiaires font face à l'absence totale de moyens financiers au-delà du mois de juillet 2012 pour assurer les services élémentaires des prisons. Le ministre de la Justice a annoncé qu'il manquait près d'1 milliard de couronnes. Le parti d'opposition social-démocrate s'oppose à la libération des détenus pour des raisons financières, tandis que la police fait face à une réduction de ses effectifs. Selon l'opposition, la demande d'augmentation du budget ne résout pas le problème que pour l'année 2012 et laisse entière la situation explosive des prisons tchèques. Politique d'austérité toujours, le commandement militaire tchèque réfléchit aux différentes manières de réaliser des économies dans un contexte de rigueur budgétaire qui vise à réduire le budget de l'ensemble des ministères. Le premier représentant de l'état-major, Miroslav Žižka, a annoncé ce lundi à l'agence tchèque de presse que l'armée procédera à une baisse de ses effectifs ainsi qu'à une limitation des recrutements. La réduction des effectifs touchera également les postes de commandement dans le cadre de sa restructuration. La proposition de réforme de l'armée devrait être soumise au Parlement au mois de juin prochain. Élection présidentielle, la coalition gouvernementale et l'opposition social-démocrate du parti CSSD se sont mis d'accord sur le plafond des budgets de campagne des candidats à l'élection présidentielle. Au premier tour, les candidats pourront mobiliser jusqu'à 40 millions de couronnes, soit environ 1,6 million d'euros, et jusqu'à 10 millions de couronnes supplémentaires, environ 400 000 euros, lors du second tour. C'est ce que les députés ODS et CSSD, Marek Benda et Jeroným Tejc, ont déclaré ce lundi à l'agence tchèque de presse, CTK. La loi d'encadrement de l'élection présidentielle au suffrage direct devrait être votée au cours du mois de juin prochain. L'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Martin Bursík, a annoncé qu'il candidatera à l'automne prochain au poste de président du Parti des Verts. Il souhaite réorienter le parti vers le centre de l'échiquier politique, considérant que depuis son départ de la présidence en 2009, les Verts tchèques s'étaient considérablement tournés vers la gauche. Lors des dernières élections législatives, le Parti des Verts n'a obtenu aucun siège à la Chambre des députés. Selon un sondage de l'agence Factum Ivenio, les Verts pourraient remporter 7 sièges si des élections anticipées avaient lieu prochainement. Quelques mots de météo pour finir. Demain mardi, le ciel sera dégagé. Quelques averses sont attendues dans l'est du pays. Les températures seront comprises entre 14 et 19 degrés pour les maximales. Nous fêterons demain les Joffiers. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite dans un instant avec Anna Kubishta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Prague et merci à Paul Bauer pour son bulletin d'information. Le baccalauréat national avait déjà suscité la polémique lors de son lancement l'an dernier. Cette année, c'est l'épreuve de mathématiques qui est sévèrement critiquée, au point que le nouveau ministre de l'Éducation a dû réagir. 3 nouvelles cloches résonnent désormais dans le beffroi de la cathédrale Saint-Guy. Elles ont sonné pour la première fois samedi dernier. Et puis sport en deuxième partie d'émission après un week-end très chargé à ce niveau. Bonne écoute de ce programme. Décidément, le nouveau baccalauréat tchèque en vigueur depuis un an n'aura cessé de faire couler de l'encre depuis sa mise en place. Cette année, c'est l'épreuve de mathématiques qui se retrouve sous le feu des critiques, au point que le nouveau ministre de l'Éducation a dû s'excuser. À peine arrivé à son poste, voilà que Petr Fiala, le nouveau ministre, doit faire face à un problème de taille. Lors de l'édition 2012 du nouveau baccalauréat tchèque, une majorité de lycéens qui avaient choisi la version difficile de l'épreuve se sont retrouvés avec un examen de mathématiques bien plus ardu que prévu. Lycéens, professeurs et autres travailleurs pédagogiques ont toffé de vertement critiquer l'épreuve. Une épreuve dont Pavel Zelani, chef de l'agence CERMAT qui prépare les examens de la Maturita, estime que c'est surtout la question du temps imparti qui a posé problème.
Ten test samotný jako takový.
Le test de mathématiques en tant que tel est pratiquement un test type comme ceux qu'on peut trouver dans les manuels. Le vrai problème, c'est le temps pour résoudre tous les problèmes qui étaient insuffisants.
Jeho problém, který tam je, je jeho časová náročnost.
Si d'après les premières vérifications de l'agence, 40% des bacheliers auraient réussi à gérer le temps imparti pour l'épreuve, c'est-à-dire à finir tous les exercices, les autres étudiants n'ont pu résoudre qu'une partie des problèmes de l'examen ou ont choisi de répondre à certaines questions au hasard. Face au mécontentement du monde enseignant et des élèves, Pavel Zelani a toffé de vouloir éteindre la polémique. On l'écoute.
Un élève ne peut être défavorisé en raison d'une erreur au niveau de l'État. C'est pourquoi il existe toujours des mécanismes de réajustement.
Petr Fiala, le nouveau ministre de l'Éducation, s'est excusé ce week-end pour ce qu'il estime être une faute, soulignant qu'il était inacceptable que les étudiants aient été soumis à une telle situation de stress pour un examen aussi important. D'après Petr Fiala, il va désormais falloir faire le bilan de cette édition du baccalauréat et en tirer les conséquences.
Après la fin de cette édition du baccalauréat, nous allons devoir, à tête reposée, analyser tous les manquements et décider de la suite des événements. Le baccalauréat national a trois raisons d'être. Déterminer la limite sous laquelle on ne réussit pas l'épreuve, permettre de comparer les étudiants et les écoles à travers le pays. Enfin, j'aimerais que le baccalauréat compte dans le processus d'admission à l'université.
Měla také nějaký význam v přijímacím řízení na vysoké školy.
En attendant, ce lundi, le ministère de l'Éducation a décidé de réévaluer les copies de mathématiques incriminées selon un barème moins sévère afin que les bacheliers concernés ne soient pas pénalisés. Selon ce nouveau système, seuls 2,8% des bacheliers ne passeraient pas l'épreuve contre 16,8% auparavant. Et le nombre de bonnes notes augmenterait radicalement. Cet incident autour des épreuves de mathématiques ne fait que raviver la polémique autour de la récente réforme du baccalauréat. Préparée pendant plusieurs années, sa première édition au niveau national s'était déroulé l'an dernier sur fond de mécontentement du monde enseignant, mais aussi du côté des élèves. Preuve qu'il faudra sans doute encore quelques années avant que la machine soit bien rodée. Trois nouvelles cloches ont été suspendues dans le clocher de la cathédrale Saint-Guy qui domine la capitale tchèque. Les Pragois ont eu la première occasion d'entendre leur son samedi 12 mai à l'occasion du 450e anniversaire du renouvellement formel de l'archevêché de Prague. Plus de détails avec Václav Richter.
Les trois cloches baptisées Dominique, Marie et Jésus ont été coulées dans l'atelier de Brodeck près de la ville de Přerov en Moravie. Nous les devons à Letizie Vranova Dietrichova, issue de la troisième génération de ces fondeurs de cloches. L'atelier de cette famille de fondeurs a déjà coulé quelque 8500 cloches qui sonnent en Tchéquie et en Slovaquie, mais aussi entre autres en Ukraine ou en République sud-africaine. La plus grande des trois cloches, Dominique, pèse une tonne. Les frais des travaux ont atteint 1,6 million de couronnes, plus de 60 000 euros, et le projet n'a été rendu possible que grâce à plusieurs donateurs. C'est le cardinal prima de l'église catholique tchèque Dominique Duka qui a béni les trois cloches après leur arrivée à Prague. Il a rappelé que les cloches avaient souvent fait les frais des conflits dans la société.
Il y a toujours eu des crises, il y a toujours eu des litiges et les cloches sont restées oubliées. Elles sont pourtant un symbole religieux et culturel qui fait partie de la civilisation européenne.
Náboženskou kulturním symbolem, který patří k evropské civilizaci.
Et Dominique Ducade ajoutait que l'arrivée de nouvelles cloches est une bénédiction pour la cathédrale Saint-Guy et que le nombre complet des cloches de sa tour peut être interprété comme un bon signe pour l'avenir. La cathédrale Saint-Guy possède donc désormais 7 cloches, nombre qui symbolise les 4 éléments de la nature et la Sainte Trinité. L'historien Jaroslav Šebek constate que le nombre des cloches est finalement complet.
Les 3 cloches ont été réquisitionnées par l'armée allemande au cours de la Deuxième Guerre mondiale et nous pouvons dire que c'est une réparation des dommages que la cathédrale a subi à cette époque-là. Les cloches ont d'ailleurs été réquisitionnées aussi dans de nombreuses autres églises au cours de la Deuxième, mais aussi de la Première Guerre mondiale. Je dirais que la bénédiction des cloches est un signe important et le renouvellement d'une tradition parce que le son des cloches, qui annonce des événements heureux ou malheureux, crée une certaine communauté entre les gens.
Jaroslav Šebek considère les cloches comme une des parties extérieures les plus importantes de la liturgie chrétienne. Il rappelle qu'au Moyen-Âge, elles mesuraient le temps et qu'elles restent aujourd'hui le symbole de la cohésion et de la solidarité humaine. 27 sonneurs, dont 7 femmes, s'occupent des cloches de la cathédrale Saint-Guy. Ils perçoivent la cloche non seulement comme un symbole religieux, mais aussi comme un instrument de musique bien spécifique. Leur chef Tomáš Stařecký apprécie les qualités sonores des 3 nouvelles œuvres de Letizia Vranova-Dietrichova, mais il souligne que le travail de l'harmonisation des sons des 7 cloches de la cathédrale n'en est qu'à son début.
Le son des cloches est beau et plein. Nous pourrons mieux en juger après avoir écouté les cloches en bas, en dehors de la cathédrale. C'est bien différent d'entendre le son dans le clocher, sous le clocher ou à une distance d'un kilomètre. Nous devons donc prendre en considération tous ces aspects. J'ai déjà dit que nous aurons besoin de quelques 6 mois pour essayer toutes les variantes du son optimal et que nous ne connaîtrons la meilleure qu'à l'automne.
Et Tomáš Stařecký d'ajouter que les cloches et les sonneurs ont survécu aux guerres et aux explosions de la haine, espère qu'elles sonneront du haut de la cathédrale encore au début du prochain millénaire.
Comme chaque lundi, place maintenant à la rubrique sportive, au sommaire du football, puisqu'on connaît désormais le nouveau champion de République tchèque, du hockey sur glace avec le championnat du monde qui se poursuit, et enfin du tennis avec Tomáš Berdych, malheureux finaliste du Masters 1000 de Madrid. L'actualité sportive, c'est dans la foulée avec Guillaume Narguet, bien sûr.
Sport en République tchèque.
Comme annoncé en titre, c'est donc finalement le Slovan Liberec qui, au bout du suspense, a été sacré champion de République tchèque de football. Le match décisif entre les 2 premières équipes du classement, le Slovan Liberec donc et le Viktoria Plzeň, a en effet accouché samedi d'un résultat nul 0-0. Or, seule une victoire aurait permis à Plzeň, qui possédait 3 points de retard sur le leader, de conserver son titre de champion à l'issue de cette véritable finale dont le hasard a voulu qu'elle se dispute lors de la 30e et dernière journée de la Gambrinus Liga. Après 2002 et 2006, le Slovan Liberec a donc remporté le 3e titre de champion de son histoire. Ce titre, le club de Bohême du Nord l'a décroché au terme d'un match où jusqu'à la dernière minute, il a souffert. Replié sur son but en 2e mi-temps, Liberec a fait front avec pas mal de réussite, comme le reconnaissait au coup de sifflet final l'attaquant international Jiří Steiner.
Comme on dit, un cheval ne saute pas plus haut que ce dont il a besoin. Cela vaut pour nous aussi. Et Dieu merci, il faut reconnaître que nous avons eu de la réussite aujourd'hui. Nous avons eu des occasions en première mi-temps, mais nous avons été inexistants en deuxième. Plzeň nous a acculés dans notre camp. Ils ont vraiment très bien joué en deuxième mi-temps, tandis que nous n'avons pas eu la moindre contre-attaque et n'avons pas su conserver le ballon. Par rapport à l'ensemble de la saison que nous avons réalisée, cela aurait été dommage de perdre ce dernier match. Je ne dis pas que la deuxième place n'aurait pas été un succès, mais après tout ce que nous avons fait cette saison et après avoir été leader, cela aurait quand même été une grosse déception.
Et si nous étions deuxième, mais quand nous avons eu la chance, c'était une grosse déception.
Il aurait pourtant suffi d'un seul petit but pour que la balance penche en faveur de Pölzeň. Mais soit par manque de réalisme ou de réussite, comme en témoignent les deux tirs sur le poteau en deuxième mi-temps, le Victoria a été contraint d'abandonner un titre de champion qu'il avait conquis la saison dernière pour la première fois de son histoire. Ce résultat nul et vierge relègue même finalement Pölzeň à la troisième place du classement. Le Sparta de Prague, victorieux de son côté de Český Budějovice 3-0, le doublant pour terminer à la deuxième place. Au lieu du troisième tour, c'est donc dès le deuxième tour préliminaire que Pölzeň fera son entrée en lice en Ligue Europa en début de saison prochaine. Des soucis que n'aura pas Liberec, dont le titre de champion permettra de disputer le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et le très expérimenté défenseur Jan Nesmar espère bien vivre la saison prochaine une aventure semblable à celle de Pölzeň cette saison, qui était parvenu à se qualifier pour la phase de groupe de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Jan Nesmar.
Je suis revenu à Liberec il y a de cela déjà quelques années et à l'époque, mon souhait était de jouer ou que Liberec vive une fois l'ambiance de la Ligue des Champions. Vu mon âge, je ne sais pas si je serai encore sur le terrain la saison prochaine, mais cela ne change rien au fait que je rêve de voir Liberec en Ligue des Champions. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'envie les matchs de Pölzeň en Ligue des Champions cette saison, comme contre Barcelone ou l'AC Milan. Ils y ont fait de très bonnes figures et j'espère que nous avons, nous aussi, le potentiel pour réussir un parcours similaire.
Comme malheureusement très souvent avec les clubs tchèques, il faudra toutefois attendre l'intersaison pour avoir une idée du réel potentiel du Slovan Liberec la saison prochaine, les meilleurs joueurs étant d'ores et déjà très demandés par les clubs étrangers. On passe au hockey sur glace. Le championnat du monde est entré dans sa deuxième et dernière semaine. Dimanche à Stockholm, la République tchèque a disputé contre la Russie son sixième match de groupe, comptant pour le premier tour. Et après s'être déjà incliné 4-1 contre la Suède le week-end précédent, les Tchèques ont cette fois concédé contre leur traditionnel rival leur deuxième défaite du tournoi. Battus 2-0 par la Russie, ils se sont ainsi inclinés pour la deuxième fois contre une des équipes favorites pour le titre de champion du monde. Menés dès la première minute du premier tiers-temps, les Tchèques ont pourtant certainement livré leur match le plus convaincant depuis le début du mondial. Mais un deuxième but encaissé suite à une infériorité numérique dès l'entame du troisième tiers-temps les a empêchés d'envisager mieux, comme le regrettait le défenseur Lukáš Krajíček, fautif et en prison au moment du deuxième but russe.
Mon exclusion a été très dommageable. Ce n'était pas une faute indispensable devant notre cage, mais les Russes ont fait aussi beaucoup de fautes similaires lors de nos supériorités numériques que les arbitres n'ont pas sanctionnées. Mon exclusion est arrivée au mauvais moment. La supériorité numérique a permis aux Russes d'inscrire leur deuxième but. De notre côté, il faut reconnaître aussi que nous n'avons pas marqué le moindre but et il est difficile de gagner un match dans ces conditions.
S'il regrettait lui aussi le manque d'efficacité de son équipe, l'attaquant Petr Nedvěd livrait lui toutefois une analyse quelque peu différente à la sortie de la glace.
Le gardien russe a été excellent. Je dirais qu'il prenait beaucoup de place dans sa cage. À 3 ou 4 reprises, il a eu un peu de réussite, c'est vrai. Mais pour le reste, il a été très serein et très sûr sur tous nos tirs plus éloignés. Malgré tout, je pense que nous n'avons pas fait un mauvais match. Le but encaissé dès la première minute ne nous a pas empêché de faire jeu égal ensuite avec les Russes, même s'il nous a manqué l'essentiel. Essentiel, à savoir marquer des buts.
Malgré cette deuxième défaite en 6 matchs, la République tchèque est pratiquement assurée de participer au quart de finale du tournoi. Les 4 premières des 8 équipes de chacun des deux groupes étant qualifiées. En cas de victoire contre l'Allemagne mardi, scénario fort probable, la République tchèque devrait alors de nouveau retrouver la Suède, pays co-organisateur de la compétition avec la Finlande, pour un quart de finale, cette fois à élimination directe. Et s'ils entendent battre une équipe candidate au titre et lutter pour une place sur le podium, l'objectif annoncé avant le début du mondial, il sera alors enfin temps pour les Tchèques de montrer ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Et puis on termine avec un mot de tennis. Tomáš Berdych n'a certes pas remporté le 8e titre et le 2e Masters 1000 de sa carrière, mais sur la terre battue de Madrid, le Tchèque a sans aucun doute réalisé un de ses meilleurs tournois depuis le début de saison. Après avoir notamment battu le Français Gaël Monfils, l'Espagnol Fernando Verdasco, puis l'Argentin Juan Martín del Potro, Tomáš Berdych a échoué en finale contre Roger Federer à l'issue d'un match de toute beauté dont le niveau de jeu a souvent atteint des sommets. Contre le Suisse, les Tchèques, battus en 3-7, 6-3, 5-7, 5-7, a concédé sa 11e défaite en 15 affrontements. Pour autant, Tomáš Berdych s'est forcé de relativiser à la sortie du cours.
Bien sûr que la déception est grande à chaud, surtout après un match aussi serré. Mais dans quelques jours, la satisfaction d'avoir fait un bon tournoi et d'avoir battu quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux prévaudra quand même. Je suis satisfait de mon niveau de jeu et c'est important. Je suis gardé un niveau de performance élevé, c'est ce qui m'a permis de lutter jusqu'au bout pour le titre. Et c'est pourquoi je suis content de la semaine passée.
Si beaucoup de joueurs se sont plaints de la terre battue bleue et glissante de Madrid, parmi lesquels notamment Rafael Nadal et Novak Djokovic qui ont menacé de ne pas participer au tournoi l'année prochaine, ce n'est donc assurément pas le cas de Tomáš Berdych que les bons résultats en Espagne ont permis de se rapprocher de la 6e place mondiale. De bon augure avant Roland-Garros et le 2e tournoi du Grand Chelem de la saison.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet sous forme de podcast, sous forme d'articles et également en streaming. L'adresse, vous la connaissez, c'est le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.